c'est un peu moins agréable que le cloître, mais ça a l'avantage d'être protégé. Donc pour cette deuxième conférence de presse avec les artistes d'Avignon, je pense qu'on va beaucoup parler, c'est un peu fort, non, de la prolifération de la langue, puisqu'il y a aujourd'hui au programme trois spectacles, trois séries de spectacles. Ceux de Olivier Cadio et Ludovic Lagarde à la Chartreuse, de Cadio à Gerstenstein. On recevra ensuite Jacques Rebautier, qui lui aussi présente deux spectacles, trois concerts et une exposition de photos à la Chartreuse. Et puis ensuite, on terminera avec la langue à la fois lyrique et violente de l'Iranien Reza Bahraini, que Thierry Bédard a contribué à faire découvrir ces dernières années. Alors, on va commencer avec vous, Olivier Cadio et Ludovic Lagarde. Bonjour, d'abord.
Enfin, bonjour.
Cadio Lagarde, j'ai l'impression qu'il y a comme ça une complicité de travail depuis longtemps, depuis 97, depuis le colonel Desouaves. Est-ce que vous avez passé une sorte comme ça de pax pour le théâtre? Parce que quand on dit Cadio, on dit Lagarde.
La liaison a commencé avant même, parce qu'on a fait une première petite pièce.
Ça fait sortir. Un délai de 3 ans.
93, donc on est paxé depuis longtemps en fait. Et qu'est-ce qu'il faut dire maintenant?
Dans la question est donc, comment est née cette complicité, puisqu'on va voir donc trois pièces. Le colonel Desouaves, que vous avez créé ensemble en 97, et Frédéric Wick, qui est une création cette année, plus une troisième pièce de Gerstenstein, traduite par vous, Olivier Cadio. Et j'ai lu, comme ça, à longueur d'interview, que vous n'étiez pas un auteur dramatique et que vous n'aimiez pas le théâtre, presque.
Je me regrette d'avoir dit ça, parce que c'est un peu un emporte-pièce, enfin, c'est qu'à me dire. Non, c'est vrai que je fais des livres. De livres de littérature, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est déjà suffisamment compliqué dans les livres, parce que je m'intéresse à la poésie, je viens de la poésie, et puis j'essaie de faire des livres qui ne ressemblent pas à des romans, mais à des récits, on va dire. J'essaie déjà d'arranger des histoires et des poèmes. Alors déjà, c'est déjà compliqué pour moi, pas mal. Alors, les livres sont déjà assez contradictoires. Et c'est vrai que le théâtre, pour aller très vite, je faisais beaucoup de lectures publiques, et je n'envisageais pas de travailler avec des acteurs, il y a très bien. Donc, au début, je vous parle début des années 80, vous voyez, avant-guerre, tout ça. Donc, et il se trouve que, par chance, nous sommes rencontrés autour de mon premier livre de poésie qui s'appelle L'art poétique. Et celui de Léa qui m'a dit à partir de ça, on pourrait peut-être faire du théâtre. J'étais très étonné. Et au fond, je suis fidèle à cette demande et cette idée qu'il a eue de m'amener au théâtre. Et c'est vrai que du même coup, Pax à fond, quoi. Parce que Pax à biscuit, parce que là, c'est vrai qu'on a du mal à s'arrêter, puisque la méthode qu'on a mise au point, qui est pas une méthode, ça pourra changer, c'est pas une chose qui est théorique ou voulue pour toujours, mais le théâtre protège aussi des livres, curieusement. Puisque Ludovic me commande des pièces et je réponds à ces pièces par des objets qui sont dédiés au son, qui sont dédiés à l'oral, qui sont pensés pour la voix, qui ne sont pas tout à fait découpés, préparés, dialogués, formatés pour le théâtre. Donc c'est très amusant parce que ça nous laisse, je conclue, mais ça nous laisse un champ de travail très intéressant. D'une part, c'est Ludovic Lagarde avec les acteurs, comme Laurent Poitrenaud pour le colonel Desouaves, toute l'équipe pour Retour définitif et pour Frédéric Wynn, qui font passer par le travail des répétitions l'objet littéraire au théâtre. Et du même coup, moi, ça me délivre d'une responsabilité théâtrale, au sens strict, et ça me permet de travailler avec eux directement sur des détails, sur des points merveilleux de détails.
Alors, pour continuer dans l'histoire de cette collaboration, de ce pacte, qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, Ludovic Lagarde, dans l'écriture de ce cadeau que vous cherchiez?
Merci. À l'époque, je ne savais pas très bien si j'allais y trouver ou pas. C'était une intuition. Il se trouve que moi, j'avais fait des études littéraires. J'avais un certain goût pour la poésie. Et donc, au fond, ma première mise en scène, ça a été des petites pièces de Beckett, qui sont parmi les plus littéraires, au fond, Solo, Bataille, qui sont très proches de la littérature. Ce sont des installations, au fond, faites par Beckett, mais qui contiennent une littérature pour lui. Et c'était à ce moment-là, au fond, que j'ai rencontré avec Olivier. Et j'ai pensé en lisant particulièrement un poème de la poétique, le futur ancien fugitif, qui avait du théâtre là. Alors, comment dire ça, c'est très difficile, hein. C'est une question de lyrisme, c'est une question de voix en fait. J'avais perçu une voix dedans. Un certain lyrisme qui à l'époque m'attirait profondément, c'était plus intuitif. Après le travail s'est construit.
Est-ce que, est-ce que vous avez été sensible aussi au comique, hein, au comique parfois d'écriture de...
Au début, très franchement, non. C'était pas le point. C'était pas le point fondamental. Non, c'est pas la musique, c'est un certain placement d'écriture, une certaine voix, un certain passage de la réalité, une vitesse, quelque chose qui m'attirait, et qui n'était pas de l'ordre de l'autonomie. Je ne savais pas très bien. Après, ça s'est expérimenté avec la première pièce, sur des frères dont on parlait tout à l'heure, en 93, où là, effectivement, on a expérimenté le théâtre ensemble. Alors là, ce que le juge Olivier n'avait pas dit, c'est que cette première pièce était dialoguée au sens classique du terme, c'est une commande plus académique. Et puis après, Olivier m'a proposé une autre méthode de travail, c'est-à-dire de passer par le livre, ensuite d'adapter au fond, de redéployer le livre au théâtre autrement.
Donc ça a été le seul livre
que vous présentez
donc en spécial à la Chartreuse, avec Frédéric Guin en alternance, et la pièce de Gerthe Stein, oui, le très jeune homme. Est-ce qu'il faut penser ces trois pièces comme un triptyque ou un diptyque plus un?
Une bonne question. Je crois que d'abord, il faut penser le projet. C'est comme ça que les choses sont nées. C'est-à-dire que la proposition était de venir au Festival d'Avignon avec non pas une pièce, mais un projet. Un projet de compagnie, un projet de compagnonnage.
Et une résidence à la Chartreuse.
Alors après, oui, techniquement, on a proposé le projet au Festival, à Saint-Andrieux, à Saint-Chimbaud, qui en parlait, hein, avec Gérard François Sio, qu'on a rencontré, et le projet s'est fait ensemble, et on a pu travailler pendant des mois à la Chartreuse pour préparer tout ça.
Comment vous définiriez ce projet?
Moi, pour moi, c'est une sorte d'aboutissement d'une première époque de mon travail. C'est-à-dire que c'est effectivement tout le travail qu'on a fait avec Olivier et qui a abouti ici avec cette création de Frédéric Guin qui est au fond une sorte de troisième volet avec la première victoire contre définitif et durable de l'être aimé du travail. C'est aussi une manière d'emmener toute une équipe de travail, des acteurs qui sont depuis extrêmement longtemps, de jeunes acteurs nouveaux, toute l'administration de la compagnie, le compagnonnage technique artistique que j'ai depuis des années, qui sont construits au fur et à mesure des années, pour présenter au fond, comment dire ça, pas dire esthétique, mais une certaine manière d'envisager le théâtre, une certaine manière de le faire, une certaine manière de travailler, voilà. Alors, ça c'est pour le projet, ça, après, techniquement, effectivement, de toute façon, moi j'avais proposé à Olivier d'adapter Frédéric Guin, de le faire au théâtre. Donc ça a été le pilier hein, de cette opération. Ensuite, il m'a semblé juste de proposer au public d'Avignon une reprise du Colonel des Oies, parce que c'est un spectacle qu'on a pris en 97, on a beaucoup tourné. Et puis, parce que Laurent et moi, je pense qu'on a une histoire avec ce festival, on l'aime à notre manière depuis longtemps, on en parle depuis longtemps, et ça me paraissait très important de pouvoir présenter cette pièce ici à nous. Voilà. Ensuite, non, juste pour Paul Stein. Après, ça c'est autre chose. Il y a Paul Stein, c'est une poétesse américaine que moi je fréquente depuis quelques années grâce à Olivier Cadeau, qui me l'a fait rencontrer, connaître. Il se trouve qu'Olivier, pour en parler, avait déjà traduit du Gertrude Stein. On avait fait des lectures à l'époque de sa traduction. Et j'avais très envie de monter une pièce de Stein. On a cherché dans toute l'œuvre de Stein, on est avec des pièces 45 ans. Dans les complets de Stein, en américain, c'est pas traduit du tout. Et on a trouvé une pièce qui s'appelle Midi le très jeune homme, très particulière. Et on a choisi de la monter, Olivier acceptait de la traduire. Voilà.
C'était une évidence de traduire cette pièce de Stein avec les Pergios. Parce que là aussi, vous avez souvent dit votre proximité avec son écriture.
Oui, ce qui est amusant, là, c'était, par chance, c'est la dernière pièce de Stein qui a été écrite en 46 ou 47, je ne sais plus. 45. Ah non. Ça a été très vite. Non, mais c'est intéressant parce que c'est une pièce, elle s'est comportée comme une vraie américaine, vous savez, qui tourne pendant qu'il y a la guerre, les gens sont en train de tourner à 300 mètres dans les tranchées, il y a d'autres gens qui tournent le même film. C'est ça les Américains, c'est très fort. Et donc c'est très inquiétant. Elle passe la guerre, elle part de Paris, donc et elle s'installe avec son ami Aristophas en Savoie. Elle passe toute la guerre en Savoie. Elle fait finalement un espèce de pièce de théâtre presque assez classique sur sa vie pendant la guerre. Enfin, pas sa vie. Elle fait une sorte de typologie extrêmement brillante de tous les cas de figure, je sais pas, de tous les personnages possibles. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour répondre à votre question, c'est une pièce qui est relativement facile à traduire, puisqu'il n'y a pas d'inventivité technologique, parce que Stein, ça fonctionne comme des espèces de spirales métaphoriques très très étranges, comme des constructions très bizarres. Et au fond, là, la langue est assez simple, la syntaxe n'est pas attaquée, sauf que, évidemment, il y a une ponctuation extrêmement compliquée, c'est-à-dire que, qui est un mix entre le parler et l'écrit, donc elle excelle dans cette espèce de frontière. Donc, ça va, moi, je l'ai traduite en vers, au lieu de la traduire en prose, pour que les acteurs puissent s'appuyer plus sur le vers, évidemment, une souplesse formidable, parce que ça permet de coller des choses qui ne devraient pas être collées et décoller des choses qui ne devraient pas être collées, par exemple. Ça permet de décadrer. Et comme c'est une pièce qui décadre les choses, voilà. Simplement, ce que je trouve très beau, c'est très émouvant dans cette pièce, c'est que on a l'impression que toute la méthode Stein, c'est-à-dire la répétition, the blows is the blows, enfin, toutes les choses pour laquelle on la connaît, peut-être d'ailleurs, malheureusement, on la connaît que comme ça, tout ça est au service d'une situation politique extrêmement simple. Tu es pour Pétain, tu es pour Pétain, je suis résistant des Parisiens, oui, non, non, oui, non. C'est très beau parce que du même coup, la forme Stein rencontre brutalement un vrai problème psychologico-politique très simple. C'est un miracle. Je ne sais pas si les Français auraient pu faire ça à la même époque, et je ne sais pas s'ils pourraient le faire d'ailleurs aujourd'hui, avec autant de franchise. Et c'est curieux comme c'est toujours une bonne réponse à ce vieux débat entre la forme, le fond, le théâtre formel, le théâtre engagé, qui nous tape à la crème terrible. Et au fond, voilà un contre-exemple extraordinaire. Comment quelqu'un a une forme travaillée comme ça, dans la solitude, pendant 30, 40 ans, et tout d'un coup, paf, l'a fait agir sur une situation politique ultra sensible, si vous m'en puissiez.
Et vous faites des parallélismes entre votre travail et son écriture ?
Non. Non, sauf que j'ai fait un premier livre, justement, qui s'appelle L'art poétique, qui est un livre de répétition, qui est un travail sur la grammaire, et c'est vrai que je me suis vite arrêté. Tout ça peut-être parce que si j'avais continué comme ça, sur le même mode, j'aurais peut-être fini par pasticher ça, ou être... La poésie fonctionne par admiration, alors il faut faire attention.
Mais en même temps, elle connaît la course, dans Fairy Queen, c'est l'histoire d'une fée,
voilà,
qui va faire un bond en arrière, comme ça, et qui va se retrouver dans le salon des Stein,
voilà.
Enfin, des Gertrude et de Aristophanes.
Bah, c'est un hasard.
C'est pas que des choses absolument admirables,
oui.
Notamment en rêve.
C'est un hasard. Oui, c'est un hasard, parce que, pour aller vite, je veux pas... C'est le quatrième volet d'une longue histoire, une histoire de Robinson. En fait, j'ai écrit que sur un personnage, c'est pas Robinson, qui est le colonel des Oies, qui joue en Poitrenaud. Nous avons joué ensemble une pièce de Retour définitif, qui était un deuxième volet, un troisième volet, et le quatrième, c'est Fairy Queen. C'est l'histoire d'une fille qui veut devenir performeuse de poésie. Et donc, alors, elle a la chance qu'une fée, donc elle peut se déplacer dans une vitesse. Je raconte ça comme si c'était une histoire printemps.
C'est ça.
Enfin, disons que le scénario, je vous expliquer pourquoi, le scénario au fond est une réponse à des envies formelles. À un moment donné, le scénario résout une équation. Et l'équation, c'était qu'il fallait un endroit où quelqu'un rentrait d'un côté par le 19e siècle et sortait par le 21e. Je me suis dit, voilà, il faut un appartement tout noir, avec quelqu'un qui rentre par une porte et passe par l'escalier à l'intérieur, on rouvre et puis il y a Central Park de l'autre côté. Je ne sais pas si on arrivait par la Terre et on sortait par Mars. Et je me suis dit, l'appartement de Stein, c'est un bon endroit. Parce que c'est un appartement où vivaient ces deux dames, très sages, avec des petits canapés en chine, avec des tasses de thé. Puis au-dessus, il y avait des Picardia et des Ernst. C'est le mélange de Miss Marple et de John Cage qui était merveilleux pour moi. Parce que je me suis dit, bah voilà, mon personnage peut arriver là-dedans et en ressortir. Modifié, puisque je fais toujours des livres sur des espèces de sports poétiques. Comment est-ce qu'on devient un bon chanteur? Comment on devient un bon rimeur en courant à pied? Comment Voilà, le sport et la poésie. Donc il fallait un terrain de jeu spécial, c'était l'appartement des Steins. Il se trouve qu'après, c'est venu après le projet de traduction.
Alors, je vais pas vous poser la parole parce que je pense qu'il y aura quelques questions dans la salle, mais quand même, décrivez Gertrude Stein et Alice Coclas comme des vieilles anglaises, des américaines plutôt qui boivent le thé dans un salon cossu. Or, depuis la guerre, vous avez justement fait un peu tard les hommes. Pourquoi une intention?
Pas du tout. C'est juste un hasard. Donc, voilà, on travaillait autour du Festival fédéral de l'être aimé. Donc, il y avait avec Laurent Poitrineau qui est là, Philippe Duquesne et Marguerite Ashwood, qui étaient trois acteurs qu'on va retrouver dans Fairy Queen. Et puis en même temps, Olivier finissait d'écrire Fairy Queen, j'avais lu un manuscrit à un moment donné. Et puis j'ai regardé attentivement Laurent Poitrineau et Philippe Duquesne. Et sans parler d'une ressemblance, je me suis dit, mais ça serait jouable. Quelque chose serait jouable. Quelque chose qui est possible. Et donc, je me suis mis à imaginer ça. Ouais. Puisque, au fond, il y avait une logique, puisque Olivier n'en a pas parlé, mais Fairy Queen, au fond, est écrit très vite, un cadre définitif, Edouard de très vite, se termine par une parole de femme, par un retour, au fond, une femme, une figure féminine. Et je crois qu'Olivier a envie de la faire parler, cette femme-là. Donc, c'est une sorte de poursuite. Donc, il y avait quelque chose qui était dédié, de fait, pour moi, dans la logique de théâtre à Valérie Dachaud, concernant ce fait-là. Et je me suis plus imaginé le rencontre de Aristoteles et Gertrude Stein en film Duquesne.
Les années que j'ai fait Duquesne, ça a été terrible.
Voilà.
Et à chaque fois qu'on met des perruques, on en met au début pour la répétition, qu'il n'y en a jamais à la fin. Parce qu'on dit, oh, c'est justement les perruques. On va les mettre.
Voilà, au
fond. C'est formidable ça.
Moi, je commence à aimer.
T'as fait ma costume, c'est une théâtre à costume.
Ah, du coup, il y a des petites symboles pour terminer aussi, il y a des petites correspondances. Enfin, c'est pas un parti pris, c'est pas un désir. Il faut que voilà, ça jouait un grand couple historique de lesbiennes par deux hommes. C'est amusant. Il se trouve qu'à l'intérieur de ça aussi, il y a un rapport au garçon de la part de la fille, au fond, une sorte de règlement de l'intérieur. Il y a une manière d'émancipation de cette jeune femme qui interroge voilà, le lien de couple, les femmes, les hommes. À l'intérieur, donc, au fond, je pense qu'il y a une certaine logique à tout ça. Quoi.
Y a-t-il des questions dans la salle? Par hasard, puisque le hasard agit beaucoup ce matin. Non, rien, personne. Alors j'aimerais juste, non plus parler, en continuant à parler, mais des spectacles, mais parler de tout ce qui se passe aussi autour des spectacles, parce que Olivier Cadieux, vous arrivez avec ces deux textes plus cette traduction, mais vous arrivez aussi avec votre famille. J'ai l'impression, avec une série de lectures qui vont avoir lieu du 21 au 24 juillet, avec aussi dans vos bagages quand même le concert de Rodolphe Burger qui va clore le festival. Parmi les poètes, on peut citer Aferi, Emmanuel Ocard, Jacques Roubaud. Rodolphe Burger, vous avez travaillé avec lui, vous avez fait des concerts avec lui, des disques avec lui, etc. Est-ce que c'est vraiment la famille Cadieux qui débarque au festival?
Non, d'abord, c'est vrai que la particularité du projet de Vincent Boudrier, l'importance de Chambon, c'est de dire on invite des gens non seulement pour les montrer plusieurs sur le travail du théâtre dans tous ces. Largement qu'on fait d'habitude, et puis en plus aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est une vraie invitation, puisque bon, j'ai pu faire quelque chose, par exemple, que le 16, venez nombreux, le 16 juillet, il y a une lecture la nuit à la 25e heure, et j'ai tenu à faire une chose que j'ai jamais faite, parce que je trouve ça toujours un peu fragile, c'est-à-dire je lis un inédit avec Laurent Poitrineau à deux voix. Tu fais une lecture en stéréo pour voir comment ça marche.
Tombeau bleu.
Voilà, et c'est vrai que c'est paradoxalement, pouvoir faire ça au Festival d'Avignon, c'est assez amusant. Parce que c'est une chose que je ne ferais pas nulle part ailleurs. Donc, parce que j'ai envie d'accompagner, j'ai envie d'être aussi dans la même tension que les acteurs et l'équipe. Donc je fais ça, je fais aussi, j'ai de la chance.
C'est un texte que Ludovic Lacan peut ensuite.
Je ne sais pas.
Décrire, parce que vous n'avez pas parlé.
Pourquoi pas? Et puis, en fait, il y a ce concert aussi avec Rodolphe Bourget. Donc, Rodolphe est un chanteur de rock du groupe Catonoma, le leader du groupe Catonoma, avec qui j'ai fait des disques, des paroles, et des disques aussi d'électronique, parce que je me suis amusé à sampler des choses et à jouer avec lui. Et simplement là, ce qui est assez curieux dans ce projet, c'est que j'initie en fait le concert, je fais une lecture assez brève, c'est comme si je donnais des paroles tout seul. Et après, Benoît Delbecq, qui est un jazzman, et Rodolphe Berger vont construire finalement du rock, donc je fais les paroles d'abord et la musique après. C'est pédagogique. Et puis, le dernier point, c'est aussi que j'ai eu la chance de pouvoir inviter la famille Cadio, c'est-à-dire pas du tout la famille Cadio, les gens que j'admire. Ce serait formidable si Hugo était mon grand frère, ou si Manuel Ocar, mon oncle, mais malheureusement. Donc j'ai pu inviter quatre personnes que j'admire beaucoup, Georges Aperguis, qui est le roi du théâtre musical, et puis Emmanuel Ocar, très grand poète, qui va faire un parcours de son travail qui va, depuis ses premiers lieux jusqu'au dernier, dans une sorte de conférence lecture, Pierre Alfieri, qui va très grand poète, qui va lire donc, des extraits de son dernier livre, et Jacques Roux aussi. Donc je suis très content de pouvoir. Et puis c'est très amusant parce que c'est en collaboration avec la SACD, et au départ, on avait dit qu'on aurait pu faire venir des gens de théâtre, et puis finalement, je me retrouve invité avec des poètes. Alors c'est assez amusant. Parce que j'essaie de les débaucher finalement. Mais dans un an ici, peut-être qu'ils vont finir par aller à la Chartreuse et faire des pièces de théâtre.
Dans votre travail, il y a les mots, il y a la musique. Je reviens au texte de Stein, où vous dites, c'est une comédie musicale sans musique. Et dans la comédie musicale, il y a quand même l'idée de la musique. Et il y a.
Mais ça, c'est pour rapporter, c'est vrai que dans cette pièce, on a l'impression que tout le monde va se mettre à chanter. C'est-à-dire. Mais alors, on a enlevé, si vous voulez, c'est comme si on avait un Fred Astaire, tout le monde, vous savez, les moments où ils sont pas au restaurant, juste avant qu'ils cassent tout, qu'ils se mettent à monter sur les tables. Alors, imaginez que le musical, on a enlevé la musique et tout le monde est presque prêt à faire mort. Et ça fait une ambiance bizarre.
Le Fred des Oies, c'est ce qu'on pense à la fois quand
vous parlez. Quand des Oies, c'est pour le coup, c'est une vraie performance sonore. Parce que Laurent Patronneau, ceux qui n'ont pas vu cette pièce, a un petit micro caché dans les cheveux, et en face de lui, il y a Gilles Durand, qui est un compositeur, un électro-acousticien, qui filtre sa voix. Ce qui fait que Laurent Poitrenaud, comme les grands schizophrènes, a moins de quinzaine de voix à sa disposition. Donc c'est un théâtre, c'est du solo polyphonique portatif. C'est mono, stéréo. Voilà. Donc pour conclure, c'est vrai que c'est très extraordinaire de pouvoir montrer tout ça. Et puis d'avoir pu préparer ça à la Chartreuse. Parce que la Chartreuse, on a fait ce qu'on avait pensé qu'on ne ferait jamais, c'est d'écrire en direct pour les répétitions, tarte à la crème, je ne pensais jamais que c'était possible, de rajouter du texte, d'apporter la fourche du texte, je trouvais ça vraiment incroyable, et puis de préparer tout ça dans un certain calme.
Mais le colonel de Zola
a quand même précieux pour envisager un festival comme Avignon, qui était une douceur en travail dans un festival aussi chaud. Enfin, c'est formidable, je trouve.
Le colonel du joueur a bougé depuis sa création.
Oui, il a bougé, de fait, même si c'est 7
ans. Il bouge toujours, parce que.
De toute façon, il bouge toujours parce que depuis qu'on l'a. Ça, c'est la particularité du travail qu'on fait, c'est comme ça, c'est une adaptation qu'on a vécu qui existe et qu'on ne prend pas tout le livre. Donc il y a toujours une ressource, c'est-à-dire que, par exemple, Laurent n'arrête pas d'arriver avec des petits extraits de livre en disant mais on pourrait mettre ça à la place de ça, et voilà. Donc au fond, ça n'a cessé d'évoluer. Olivier qui évidemment dit des choses, ou Gilles d'ailleurs, tout le monde s'y met, et donc il a cessé de bouger au travers des années, et puis ça évolue bien sûr, enfin, on lui a fait un costume d'été par exemple.
Alors il faut voir les pièces dans l'ordre, l'écriture ou pas? Non.
D'accord. Non, c'est pas, il n'y a pas d'ordre, peut-être on peut tout envisager, si on voit d'abord le colonel d'espoir, effectivement on voit là. La première modélisation de notre travail, donc c'est une manière de voir les choses, de voir d'abord le colonel, ensuite faire les Queenstein. Enfin bon, ça n'a pas grand importance, c'est pas de problème.
En tout cas, dans l'ordre des premières, c'est oui, dit le très jeune homme, le 9, puis 13, 16, 20 et 23, ensuite les Queen, donc on n'est pas dans le sens du temps. Première le 10, 14, 17, 21 et 24, et puis donc le colonel des Oeuvres, le 11 pour la première, 15, 18, 22 et 25, à la Chartreuse.
Merci.
Merci.
Est-ce que je peux insister quelque chose? Je veux juste faire la lecture d'un texte qui vous a peut-être déjà eu entre les mains, mais je le tiens symboliquement à vous le lire. Ce sera bref. artiste invité du Festival d'Annecy 2004, voulant affirmer notre attachement à la mission publique au service de l'art et de la création. Nous continuons à penser que la politique culturelle de l'État doit protéger les lois du marché, nos pratiques spécifiques. La question de l'intermittence doit être traitée en fonction d'objectifs artistiques et culturels. Elle dépasse le point de vue purement économique des partenaires sociaux. Elle engage l'avenir artistique et intellectuel de la France. La forme de l'intermittence, signée le 26 juin 2003, est injuste parce qu'elle élimine sans discernement une partie d'entre nous, et perverse parce qu'elle tente de nous dresser les uns contre les autres. Le mouvement des intermittents a mûri. Il a fait des propositions responsables, nous l'exhortons. Cette lutte est notre lutte dans la mesure où elle se réclame de l'héritage dont nous sommes des dépositaires, celui des artistes singuliers qui ont fait l'histoire du théâtre et de la danse, et non de la bonne marche de l'industrie du culturel. Voilà, merci beaucoup. Ce texte donc a été signé par pratiquement toutes les équipes du Festival de Lille. Merci beaucoup.
Du travail à la Chartreuse avec le spectacle Les Couvertures Son, qui est une reprise, et puis Description de l'homme prologue, qui est pour le coup une création, suivant trois concerts et une expo photo. Donc vous avez une activité tous azimuts, Jacques Robotier, est-ce que c'est une façon aussi d'explorer toutes les voies possibles de la poésie?
La photo, c'est un travail ancien, déjà, c'est une quinzaine d'années, une dizaine d'années, voilà, je m'intéresse au rapport entre la poésie et l'image, quoi. Donc à l'époque je m'intéressais aussi au XVIe siècle, aux livres d'emblèmes, on voyait des images, des très courts textes comme ça qui faisaient en quelque sorte des courts-circuits mentaux entre image et langage. Et bon, moi c'était aussi mon petit carnet de croquis comme ça, j'aimais bien photographier dans la rue et j'aimais bien prendre des notes aussi, comme tous les gens qui écrivent, je pense. Et donc j'aimais bien les rapprocher pour voir ce qui en sortait comme étincelle. Voilà, donc c'est un travail un peu ancien.
Aujourd'hui, c'est plus de travail sur le texte, sur la musique.
Oui, voilà, maintenant je suis plus sur la musique du texte, surtout avec les ouvertures son, qui est un travail un peu d'entrée au fond, dans le micro, dans la micro-pensée, dans le micro-langage, de savoir comment ça se passe à l'intérieur. Quoi. Et comment on pense quand on ne pense à rien, ou comment on pense quand on fait la vaisselle, comment on marche dans la rue, la pensée, comment elle procède par vagues, par dérives. Donc on entre comme ça dans la tête de deux comédiens dont la voix n'est pas projetée vers nous, mais au contraire procède par aimantation un petit peu et nous attire, nous, oreilles, vers le plateau. Alors c'est des très très fines dérives comme ça qui sont intimement impliqué avec la lumière et le son extérieur, enfin du son de travail de bande, si on peut dire bande, on dit encore bande, c'est rigolo, c'est plus jamais de la bande, c'est bon. Et la voix même des acteurs, qui est très très légèrement transformée, mais de façon imperceptible. Voilà. Donc c'est vraiment un travail sur l'intériorité.
Il y a un point de suspension après les ouvertures son, sont pour les sons, son quoi?
Ah ben, je dirais qu'il n'y a que des points de suspension dedans, parce que c'est des vagues comme ça de phrases, les unes après les autres. C'est un texte vraiment anti-théâtral, au sens où ça n'a pas été du tout écrit pour le théâtre, c'est écrit vraiment comme ça, un texte, je ne pensais pas du tout. C'est un peu Joël Joanneau qui m'a dit, mais au fond, sur tout ça, tu devrais le mettre sur scène. Et moi, j'avoue que j'en avais envie, mais je ne sais pas du tout, parce que c'est comment dire, étal. Enfin, voilà. Il n'y a pas de dramaturgie, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de... Voilà, c'est complètement étal, comme peut être la pensée qui marche toute seule quand on somnole ou qu'on rêvasse. Voilà, donc il se passe après rien et le projet c'est d'entrer dans un autre temps, dans une autre façon de voir les choses, où on accepte un autre temps pendant une heure, hein, c'est pas long, mais voilà.
Et le spectateur doit être dans ce même état de rêverie, de flottement, pour en recevoir le texte?
Je ne sais pas, je ne peux pas dire... Comme on doit être le spectateur. Hein. ça procède un peu par fascination, certainement, oui, il y a quelque chose de cet endroit-là. Hein. Et pour répondre à la question, les ouvertures de son, effectivement, les ouvertures de son, sont en quoi, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a pas, c'est pas, le verbe n'est pas transitif, hein, c'est peut-être intransitif, les ouvertures de son, peut-être qu'elles existent. Parce qu'en même temps, il y a une thématique derrière tout ça, la pensée ne dérive pas autour de rien, elle dérive autour de l'idée d'ouverture et de fermeture, autour de l'idée que, bon, quelle meilleure solution quand il y a des conflits entre deux parties, entre trois parties, hein, entre une situation tendue comme on en vit tout le temps au niveau inter-individuel, au niveau politique. Donc quelle solution? La solution qui est proposée, c'est construisons un mur. Voilà, ça dérive beaucoup, enfin, la solution qui est proposée généralement, c'est ça, quoi. Donc ça tourne beaucoup autour de l'idée du mur et États-Unis-Mexique, bien sûr, c'était écrit il y a 5 ans dans le texte. Hein. Voilà, ça tourne autour de ça, après ça dérive sur la muraille de Chine, ça, qui a disparu, qu'est-ce que c'est qu'un objet qui s'enfonce dans le passé, qu'est-ce que c'est que des ouvertures dans le corps humain, des fermetures du corps, des fermetures entre les gens, dans le corps humain, ou à l'intérieur ou à l'extérieur, si on regarde bien un corps, son droit être notre intérieur, très intérieur, ça n'est au fond qu'un tuyau qui enferme de l'extérieur, l'extérieur de travers. Donc c'est un peu une espèce de rêverie mentale là-dessus. C'est écrit un peu à Forbach aussi, où j'avais créé le spectacle sous une forme bilingue franco-allemande, en même temps, parler en même temps, français en allemand, de chaque côté de la frontière, comme ça on faisait des plus pour jouer ça. C'est vraiment une complètement autre forme scénographique. Et donc c'est aussi un travail comme ça sur les trous qui nous traversent et les loquets qui nous ferment.
Est-ce que ce spectacle peut faire écho à la création aujourd'hui à la Chartreuse, qui est donc l'autre texte de description de l'œuvre, le prologue?
Oui, ça fait écho. Enfin, je ne me l'étais pas aperçu du tout, bien sûr, c'est maintenant en travaillant que je m'en aperçois, mais d'abord la thématique est au fond. Je ne dis pas la même, mais ça part du même point d'état, c'est-à-dire un regard comme ça sur le corps de l'homme, un regard élémentaire là-dessus. Et cette encyclopédie, là, je m'amuse à écrire, une encyclopédie vue par une grenouille ou par un insecte extraterrestre, on ne sait pas bien, voilà, peut-être à un moment où l'homme a déjà disparu. L'encyclopédie, elle part du premier chapitre qui est l'anatomie, bah, comment ça fonctionne, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Apparemment, c'est une espèce de sac avec des excroissances, 4, voilà, qui pendent généralement vers le bas. Voilà, il y a un tuyau qui est enroulé dedans. Voilà, il y a une espèce de truc rond, un pot, quoi, qui est posé dessus, sur le sac. Voilà, ça part de choses très élémentaires. Et puis, on décline finalement un chapitre sur la parole, un chapitre sur la respiration, un chapitre sur les systèmes politiques, un chapitre sur la religion. Et on s'aperçoit qu'on peut vraiment expliquer tout le monde de façon complètement, évidemment, partielle et partiale. Mais est-ce que toute explication n'est pas toujours un peu partielle? Voilà. Mais bon.
Mais alors, vous parlez de cette encyclopédie comme une évidence. Alors, ça n'est pas forcément pour tout le monde. Quel est le projet de cette encyclopédie théâtre dont ce texte serait le prologue?
Eh bien, cette encyclopédie, là encore, c'est un texte d'écriture qui est premier, quoi. Voilà, j'écris ce truc-là. Moi, je suis très sensible à ce qu'il y a des idées aussi, parce que c'est vrai que ça part du texte, quoi. Ça part du texte. Hein. Mais le texte, il a fait sa flotte, il continue d'ailleurs à faire sa flotte, il y a une quarantaine, une cinquantaine de chapitres maintenant, et voilà. Et comment montrer un texte qui n'est pas encore édité, qui va l'être l'année prochaine, mais comment montrer ça sur scène, voilà. Et puis, c'est vrai que là encore, c'est un travail qui est lié à la compagnie, à notre compagnie, où, voilà, l'ingénieur orthopédique et scénographe, Bernard Valéry qui travaille sur le son, voilà, ils disent les choses, ils disent, bon, ben ça, tiens, ça nous intéresserait de travailler là-dessus. Et donc, voilà, c'est des choses arrivent sur le plateau avec l'idée que finalement, on va tourner autour d'un texte. On va tourner autour sans jamais le voir. Enfin, peut-être on le verra, il y a aujourd'hui un gros livre là, qui a été réalisé, que les gens peuvent feuilleter à un moment dans le spectacle, mais ils n'ont pas le temps vraiment de le lire. On tourne autour, on en détaille des petits bouts, des fragments, on essaie de voir ce qui peut rester, un peu comme dans un musée, bah, autour d'une civilisation qui est un peu oubliée, bah, des petits bouts, des fragments, des remures de langage, des choses qui sont un peu lapidaires, et comme on tombe sur un fragment d'Héraclite, voilà, qu'on peut interpréter pendant des années, parce qu'on et ça paraît tellement foudroyant ce petit fragment tout d'un coup, alors que si on avait tout le contexte, peut-être ça donnerait vraiment un regard complètement différent dessus. Donc voilà, on tourne autour d'un livre en fait.
Donc cette idée de tourner autour a imposé la forme, la déambulation, la chanteuse.
Oui,
c'est un spectacle déambulatoire.
Oui, et puis, ouais, c'est un spectacle déambulatoire qui s'achève par un monologue, qui est en quelque sorte le prologue de cette encyclopédie, et qui est, sur, qui est dit par Alain Fromager, un monologue d'une heure, comme ça, sur « Détruisons toutes les bêtes, détruisons les animaux, détruisons les autres espèces, on en finisse pas. » On les fait mourir un petit peu, finissons-en. Il y a peut-être une cinquantaine de millions d'autres espèces, et l'homme est devenu le seul prédateur de toutes ces espèces, le prédateur unique. Et on les détruit toutes. Voilà. Alors, bon, c'est un, au fond un prologue à ça, et l'encyclopédie elle-même, elle tourne au vinaigre, et ça devient une espèce de procès, d'auto-procès sur l'espèce humaine qui s'érige en destructeur total de tous les autres, et qui leur donne le choix. Bon, voilà, vous avez votre choix, c'est esclavage ou disparition. Vous choisissez quoi ? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait des autres espèces ? C'est ça. Donc, c'est un regard aussi là-dessus.
C'est une fable apocalyptique, en fait.
Ah oui, j'aime bien.
D'autant que vous supprimez. Vos titres sont toujours quand même assez extraordinaires. Vous supprimez le H de homme.
Oui.
C'est quoi cet homme sans H ?
Mais peut-être que dans 50 ans, le français aura supprimé le H de homme. Après, le H n'existait pas avant le 12e ou 11e siècle. Parce qu'à l'époque, on a relatinisé le latin, le français. Les clercs ont relatinisé le latin. Et donc, on écrivait homme. D'ailleurs, je cite à un moment Bonetto Latini. Voilà, qui a écrit une espèce de bestiaire, et homme s'écrit OM. Les manuscrits vont là, ou OME. Donc tout ça est très très relatif. Tout ça est très fluctuant. Les choses qu'on croit évidentes à un moment donné en 2004 sont appelées à disparaître, et viennent d'ailleurs. Et voilà, donc on est dans la fugacité qui vraiment télescope cette idée de déambulation. On est dans la fugacité, dans des choses qui sont fugitives et qui dérivent en fait. Et là, je trouve de façon mentale ces ouvertures sont qui sont une dérive mentale. Là, on a une dérive spatiale, avec également en fait, un intérieur et un extérieur. Ce qui m'a frappé dans ce lieu de Chartreux, c'est qu'on a, on entre dans ce grand cloître, dans ce grand cimetière. On est dans l'ambulatoire, donc on est dans l'intérieur, mais en même temps, à l'intérieur de cet intérieur, on voit un pré. Alors nous, on a mis des moutons dans ce pré. Hein, parce que c'est l'extérieur, on voit l'extérieur à l'intérieur exactement comme dans le corps de l'homme. On passe dans le petit cloître après, alors, voilà, on est aussi dans une déambulation, avec au milieu un jardin magnifique. Voilà, c'est l'esthétique du patio, ou voilà, qui est au fond celle du cloître. Hein. L'espace mental des moines était, voilà, ils étaient reclus en quelque sorte dans des cellules, au fond, autour d'un extérieur qui était leur intériorité figurée. Ben, moi, je vois ça un peu comme ça. Donc tout ça, ça brouille aussi un peu les pistes et les espaces.
Mais c'est un texte d'anticipation, qu'on pouvait croire tout à l'heure quand vous parliez de l'élimination des races humaines, ou c'est finalement un texte qui revient à l'origine de la langue, qui se joue qui plus est dans un monument historique.
Ben, c'est vraiment les deux. C'est vraiment les deux. Enfin, c'est les deux. C'est le libre choix, en fait, au spectateur. C'est brouillé aussi, ça. Le point de vue est brouillé. C'est-à-dire qu'on peut se demander, mais attends, là, on parle. On est en 2050 ou 2060, ou est-ce que l'espèce a disparu, ou bien est-ce que c'est un lapin qui parle, ou une salamandre et qui dit voilà, je vois l'homme comme ça, ou bien est-ce que c'est un moine du 12e siècle qui dit on pourrait voir le corps de l'homme comme ça, parce que corpus ça vient de corruptus, donc le corps est corrompu. Est-ce que, voilà, on se demande sans arrêt où on est en fait. Et c'est vrai que ça me plaît. Voilà, la poésie pour moi c'est vraiment la multiplicité. Brouiller des points de vue, pas pour moi. Oui, dans le sens où la poésie, c'est le laboratoire de l'énergie d'aujourd'hui. Quoi. C'est là que les choses se forgent, s'inventent, pour moi. Hein. Mais il y a aussi des auteurs de théâtre qui sont d'abord des poètes. Hein.
Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu des conditions de votre résidence à Chartreuse, parce que vous aussi, un peu moins longuement, vous avez été capitaine de la gare, vous êtes en résidence à Chartreuse, mais j'aimerais savoir si vous avez d'abord des questions dans la salle sur les spectacles de Jacques Gauthier, les ouvertures sombres et les descriptions de l'homme prologue. Non, personne. On a une interrogation.
Qui nous amènerait à changer tout spectacle, il est encore temps. Il nous dit un truc. Là.
Bon, personne. Alors, parle un tout petit peu, Jacques Gauthier, si vous voulez bien, de cette résidence. Comment. Est-ce qu'on parle de résidence ou de compagnonnage, d'ailleurs, à votre sujet avec la Chartreuse ?
La Chartreuse a parlé de compagnonnage, et moi j'aime bien le mot, hein, compagnon, c'est quelqu'un qui partage le pain pendant un moment. Voilà. Donc la chartreuse nous offre le pain. D'ailleurs, c'est un double compagnonnage au sens où moi je suis invité en tant que, il me semble, Daniel Bernigas ou François, si je dis des bêtises. Il me semble que je suis invité en tant que voilà, quelqu'un qui écrit des textes, auteur, parce que c'est une édition première de la chartreuse. Et puis il y a une seconde comme ça, invitation parallèle qui est d'inviter des choses en train de se faire. Donc il y a une invitation à des éléments de la compagnie pour réaliser ce pour quoi on écrit. Ce qui est quand même une chose assez unique en France, je pense, d'avoir un lieu où se peuvent se concevoir les choses et où se peuvent parfois prendre corps, faire leur pelote et puis aller jusqu'au bout, y compris à la lecture publique, puisqu'on a organisé ici à la Chartreuse ce qu'ils appellent des itinéraires d'auteurs, c'est-à-dire qu'on a mis en espace, moi je l'ai fait avec David Descoux, quatre lectures différentes de l'une de mes textes, avec cinq comédiens au fond de la région, et voilà. On a été tourné dans toutes les villes, enfin, dans beaucoup de bibliothèques, de Vaucluse et de Gare. Voilà. Et donc, si je finis sur le projet, donc le projet c'est aussi d'accompagner sur l'année prochaine, sur d'autres chapitres de ma description de l'homme, qui sont les chapitres plus, sur l'économie, sur l'auto-casino, sur le régime politique, où j'appelais ça la tragédie de Pluton, parce que voilà, je pense qu'on est dans un régime de plutocratie. Peut-être qu'il y a un moment on est dans un régime de plutocratie, de gouvernement par les riches. Non, c'est carrément le gouvernement par Pluton. Et voilà, on parle comme ça. Avec les 13 ans.
Il y a combien de volets à cette encyclopédie c'est précisé déjà.
Non, pas du tout. C'est pas du tout précisé, parce que on a fait déjà pas mal de volets en fait. Hein. On avait fait un volet à Hambourg, comme ça, avec des acteurs de Charles Pilaros, comme ça. On avait fait un volet. On a fait plusieurs volets au Pérou. Voilà, aussi en théâtre de rue, en Pérou, en Amazonie. On a fait un volet aussi au Pérou, à Lima, dans une maison coloniale. On a fait des petits, je dis pas des volets, mais des lamelles de fenêtres, peut-être, comme ça, au Maghreb, dans différents pays. Voilà, ça suit son cours un peu en fonction des touches. Quoi.
Alors, cette résidence à Cloutier à la Chartreuse a duré un an, de juin l'an dernier jusqu'à aujourd'hui. On sait ce qui s'est passé l'an dernier au Festival d'Avignon. Vous avez été assez présent au cours de ces événements. Est-ce que ce spectacle est aussi nourri de la situation politique et artistique que vous avez pu vivre l'an dernier?
Oui, je crois. Oui, je crois parce que les menaces. Enfin, moi, ce qui me paraît le plus frappant, je dirais, c'est une espèce de dédémocratisation. Il y aura d'ailleurs une salle de la dédémocratie dans le musée de l'homme, construit beaucoup Virginie et Rocketti avec toute l'équipe. On a un salon de la dédémocratie. Parce que je pense qu'il y a une espèce de dédémocratisation larvée, dans la mesure où quand on parle vraiment avec les gens, ben on a l'impression qu'ils. Ben non, ils veulent payer l'eau au prix coûtant, ils veulent avoir accès à de l'art. Est-ce qu'ils sont vraiment d'accord tous pour breveter tous les produits, le code génétique non. Donc vraiment, on a l'impression qu'on a embarqué, y compris d'ailleurs dans la construction européenne, qu'on a embarqué vers des choses. Ben, je sais pas, c'est assez étonnant quoi, que la Constitution se vote juste après le vote des gens, elle ne se vote pas. J'ai l'impression qu'il y a comme ça un grand mouvement qui, tout d'un coup, on est dépossédé par les gens en fait, qui habitent la planète. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce que vous êtes tous d'accord pour que toutes les autres espèces animales disparaissent? Non. Voilà. Donc, vraiment, on a l'impression que quelques sujets qu'on prenne, y compris l'éducation, la santé, on a l'impression que voilà, ça se défait et ça échappe des mains des gens. Alors, je sais pas, et c'est sûr qu'on a du mal à penser les oppressions. Hein. Moi, je vois vraiment pas. Je suis pas trop. Non. Je sais pas, on a eu du mal à penser, au 19e siècle, comme ça, l'oppression, le rapport pauvre-riche, la pression des riches sur les pauvres. On a eu du mal après à penser que c'était aussi géographique tout ça, et mondial, qu'il y avait une oppression nord-sud, et qu'on a eu du mal à penser ces deux oppressions l'une avec l'autre. On n'est toujours pas arrivé d'ailleurs. Hein. Et puis maintenant, tout d'un coup, je crois qu'il faut arriver à penser une troisième oppression, qui est l'oppression de l'espèce humaine sur toutes les autres espèces. Et tout d'un coup, je pense qu'on va être obligé de remettre en cause fondamentalement, moi je sais pas l'utopie, mais je suis absolument persuadé que le libéralisme va s'effondrer complètement. La seule raison, c'est parce que c'est pas possible d'aller vers une croissance Le libéralisme vit forcément sur de nouveaux marchés, donc de nouveaux consommateurs. Donc il faut trouver de nouveaux consommateurs, demain à la Chine, voilà, on voit bien comment ça se passe. Hein, donc de nouveaux marchés éventuellement à inventer pour les besoins de la consommation, donc ça va forcément s'effondrer par la pollution par tous les bouts, l'atmosphère, l'eau, enfin on voit bien, quoi, tout le monde le sent, ça compte plus ou moins confusément, on le sent tous. Donc forcément, il va falloir penser autre chose. Et donc, ça, je pense vraiment qu'on va vers la cata. Vraiment, je le pense profondément. Le seul problème, c'est de savoir si on va arriver à trouver une voie de garage. J'ai l'impression qu'on est dans un train, si vous voulez. Et bon, je dis événement parce que la création, on vous parle des événements de l'Union, on va dire que la création était une fragilité insensée. Jamais on aurait pensé ça en France. Que vraiment, on arrive au moment où tout d'un coup, une entreprise aux États-Unis ou ailleurs allait pouvoir attaquer en justice, demain peut-être, un théâtre parce qu'il vit avec des subventions de l'État français. Et tout d'un coup, on arrive à un truc comme ça qui était impensable avant-hier. Hein. Bon, et c'est vrai dans tous les domaines, ce truc-là. Alors, voilà, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un train, qui va dans le mur, qui accélère, et puis on est là à se demander, bon, est-ce que j'arrange un peu le rideau là, qui est près de la fenêtre, est-ce que je vais essayer d'avoir la place qui est près du couloir, ou, enfin, je sens vraiment des trucs comme ça, personnellement.
Jacques Bautier, pour conclure tout à l'heure, vous disiez, je suis un poète. Est-ce que vous rajouteriez politique, engagé
C'est pas lié
à l'écriture. Un adjectif.
Non, parce que c'est pas lié à l'écriture. Moi, j'ai écrit de la poésie, tout ça, c'était pas engagé, enfin, pour moi. C'est engagé peut-être dans le langage, dans la mesure où on est engagé du langage. On met en cause la façon dont ça fonctionne, où on le regarde d'un coup d'un œil neuf. Voilà. Mais après, c'est citoyen derrière. Voilà, c'est les gens. Ben, on est une personne comme une autre, c'est tout. Hein. Je veux dire, dans la politique, quoi, c'est ce que je vous dis, ça vient pas du tout du fait que j'écris, je crois pas.
Des questions? Merci beaucoup. Donc, les dates des ouvertures sont, c'est du 9 au 25, c'est pas tous les soirs, mais pour ça, il faut reporter au programme. Et les descriptions de l'homme prologue, première le 15. Jusqu'au 25 aussi, tout ça à Chartreuse. Et puis il y a trois concerts, on a pas parlé, les 16, 24 et 25 juillet.
Voilà, c'est avec des amis musiciens, avec très souvent des concerts lecture ou des concerts performance comme ça. Voilà. C'est avec Louis Clavis et Didier Dursari, donc clarinette d'accordéon, le 16, et le 24, 25 avec Alexandre Meyer et Frédéric Minier.
La famille de Robotier, pour reprendre la famille.
Non, j'aime pas trop le mot famille, en fait. Des affinités, des amitiés qui se fait, voilà. J'aime pas trop le mot famille, ça connote un peu l'idée du clan. J'aime que ça soit un peu ouvert, enfin, je pense à plus que ça.
Merci, Jacques Robotier. Donc, tout cela à la charte. Nous allons passer à la troisième série de spectacles présentés ce matin avec Thierry Bédard et Reda Bahraini. Mais je ne sais pas si je ne suis pas vu, je ne sais pas si ils sont dans la salle.
Thierry,
Reda,
c'est Canada, d'avoir connu les geôles iraniennes à la fois du camp du Shah
et de la Doya Robini. Ça, c'est bien sûr pour aller vite, les auteurs d'une trentaine de textes. Mais j'ai lu au cours dans les papiers qui vous ont été consacrés, que tout entretien avec vous commençait par une histoire, une forme de conte. Donc je ne vais pas priver le public, presse au public de l'Union, du premier conte de Reza Barahini. Est-ce que Avignon vous a inspiré une histoire particulière?
Je suis très heureux d'être là. Avignon ressemble de certains côtés à où on vient d'une ville iranienne. Là où j'habite actuellement, ressemble plutôt à un labyrinthe vertical, à un labyrinthe vertical. Moi, j'ai l'habitude des labyrinthes qui vont droit dans les prisons. Les labyrinthes penchés, j'ai l'habitude aussi. Depuis le temps de Gilgamesh jusqu'à nos jours. Mais les labyrinthes qui sont en escalier et qui montent, en spirale. Oui, surtout dans mon séjour de quelques jours ici, quand je monte, j'avais pas l'habitude de ça. J'habite dans la maison de quelqu'un en ce moment. Je ne sais pas son nom exact. Mais c'est l'imagination complète d'une culture mondiale. Sa maison est remplie de dessins, beaucoup de livres partout, toutes sortes de statuettes étranges. Et la vérité, c'est que j'aimerais passer un séjour un peu plus long pour que je puisse m'introduire dans la labyrinthe de son cerveau. L'image d'Avignon. Avignon me rappelle la construction de nos déserts. On arrive soudain dans un endroit extrêmement plein, avec un bâtiment comme celui-là, qui éveille dans mon souvenir l'image des anciennes écoles dans la plénitude de la culture islamique et la culture perse, quand toute chose était sous forme de carré. Et les personnes qui avaient affaire à la religion et à la philosophie avaient des compartiments tout autour de ces endroits. Et même les arcades qui ont ces formes-là nous rappellent les arcades des anciennes mosquées d'Égypte et du Moyen-Orient.
Reza Barahini, que représente dans votre parcours et dans votre œuvre le théâtre, sachant que les textes qu'on va pouvoir entendre à Avignon et dont on va parler aussi avec les Jésus, ne sont pas proprement écrits pour le théâtre?
Moi, dans mon enfance, j'allais souvent aux représentations des Taziers. Et j'y jouais en tant que les enfants des martyrs. Un des plus beaux films que j'ai vus dans ma vie. Et le film de Pasolini, l'Évangile selon saint Matthieu. Que le visage du Christ ressemble beaucoup au visage de Mansour Hadj. Il n'a aucune ressemblance avec aucune des figures hollywoodiennes. Comme si le Christ était né là et était mort là, au même endroit que Mansour, avec les yeux qui se rentrent l'un dans l'autre, les yeux nerveux, sans arrêt en train de parler. Et ça me rappelle les tasiers de l'ancien temps. Et dans l'ensemble de toute mon écriture, sont facilement se meuvent, voilà, l'ensemble de mon écriture se meut de lui-même vers le théâtre. Parce que la nature même de la littérature personnelle. C'est la nature même de la violence qui est inhérente à la vie.
Elle
rapproche beaucoup mon travail de la représentation et du jeu représentatif. Mais mon poème est un poème adressé. Ma poésie est un poème à adresser à dire.
Thierry Bédard, comment s'est faite la rencontre avec l'écriture? Je pense que vous avez découvert l'écriture de Bédard Raimi avant de rencontrer lui-même. Comment vous en êtes venu à découvrir cet auteur, Thierry?
J'ai acheté le premier livre publié, Bazin en France.
En 2010,
ouais. Oui, c'est il y a 30 ans. Et puis, il s'est passé une chose extrêmement étrange. Je pense que ça faisait un certain nombre d'années que je n'avais pas lu un verbe aussi puissant, d'une certaine manière. Donc, c'est d'abord une histoire de rapport avec la matière même d'un verbe que ça m'a apporté. Voilà. Ça a été très très vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai lu ce premier texte, en fait, j'ai bouleversé tout ce que j'étais en train de préparer pour traiter ce verbe-là.
À l'époque, vous étiez proche du Parlement des écrivains. Oui. Vous aviez un projet qui s'appelait la bibliothèque censurée, qui était donc de faire entendre des textes qu'on n'avait pas forcément accès.
Oui, je travaillais sur des œuvres, d'autres œuvres tout à fait passionnantes, qui pour la plupart venaient plutôt du monde arabe. Il y avait un autre auteur persan qui m'intéressait, qui était presque profondément responsable. Attends, c'est qu'à moitié vrai en plus. Mais j'ai bouleversé en fait tout mon travail, tout ce que j'avais préparé pour rentrer dans cette œuvre-là. Voilà.
Et comment vous pouvez nommer cette rencontre et ce choc justement avec la langue? On parle beaucoup d'une écriture à la fois très sensuelle et très violente. Est-ce que ce sont des adjectifs que vous utiliseriez pour définir son écriture?
Ben c'est-à-dire qu'il a présent une matière de verbe qui est la violence. Enfin, c'est très difficile à exprimer, ça ressemble pas à grand chose je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que un monde de cruauté, de violence, de violence de la pensée, de violence des corps, c'est une chose tout à fait frappante. On connaît très peu ces choses-là. Je pense que, par exemple, en France, une des seules personnes qui serait liée à ça serait Pierre Guillotin. mais c'est vraiment le plus proche. En même temps, si on commence à faire chercher des référents littéraires, on s'arrête très vite parce que c'est une chose tout à fait étonnante. C'est que cette œuvre-là, qui s'appelle donc La saison de l'enfer du jeune Ayaz.
Reza Rahimi, quand Thierry Bédard parle de la violence de l'écriture, et de l'écriture parlant de la violence, quelle est l'origine de cette violence? Est-ce que vos séjours dans les prisons iraniennes sont notamment à l'origine de cela?
Quand j'ai écrit Les saisons de l'enfer du jeune Ayaz, je n'avais jamais été en prison à part des malentendus de deux jours ou de trois jours, ou des incidents plutôt qu'un malentendu. Et jamais, et je n'ai jamais été torturé par d'autres personnes, enfin, personne en tant que puissance. Mais en 1973, quand j'étais dans la chambre de la torture, et que le bourreau était quelqu'un de taille grand et fort, j'ai vu dans sa personne mon père. Et quand dans les premières pages des saisons d'enfer du jeune Ayaz, quand je montrais ces pages-là à mon frère, qui est
psychologue,
après les avoir lus, il m'a dit: est-ce que tu sais la personne qui est sur le gibet ressemble de très près à notre père? Et il m'a expliqué que si lui, enfin le frère, est tombé amoureux de Freud et est allé dans cette recherche-là, il voulait élucider celle des rapports qu'il avait avec son père. Quand nous considérons la vie de plusieurs personnes, comme Kafka, Freud, Nietzsche, quand on étudie ces vies-là, on peut constater qu'au cœur de ces événements, la chambre de torture, le lieu même de la torture et la famille, et surtout dans les familles patriarcales en relation avec les fils. Mais certainement la partie la plus violente que j'ai écrite durant ma vie, qui sont les 50 premières pages des Saisons d'enfer de jeune Ayaz, dont la pièce en enfer a été tirée, commence de cette manière. J'enseignais à l'université en 1965, j'ai lu Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. En fait, j'avais donné à traduire à mes élèves, à mes étudiants. Et une partie de ces feuillets était sur la table. Je les ai retournés de cette manière. Et j'ai écrit en haut de la page: il a dit, monte la scie. Et dans une vitesse extrême, j'ai écrit deux pages pendant deux heures entières. Et tout de suite après, j'ai ramassé les feuillets de l'examen. Et je suis allé dans le premier café qui s'est présenté à moi. Et j'ai écrit les 50 pages d'une traite, les 50 premières pages du roman. Et comme j'étais effrayé de publier ça, je l'ai publié immédiatement. Et après le livre, les autres travaux qui ont concerné ce livre ont duré à peu près 4 ans. Quand le livre a été prêt, je l'ai donné à éditer. Et ça a été après la période pendant laquelle j'ai été emprisonné que les livres ont été pilonnés. Et il ne reste plus aucun exemplaire de ce livre en
personne.
Sauf l'exemplaire que j'avais récupéré par fragment de l'éditeur. Des années plus tard, c'est ce même éditeur m'a donné un exemplaire de ce livre. Ayaz, en réalité, a eu la vie de censure la plus longue. Comme les violences que nous subissons dans nos familles et dans nos sociétés. Et donc on n'évoque jamais jusqu'à la fin de nos jours.
Il faut peut-être préciser que Ayaz est un esclave au XIe siècle et que les 50 premières pages du roman que vous évoquiez racontent en fait le démembrement d'un homme qui en va choper les bras, les jambes et aussi la langue. Alors je sais que c'est pas le but, surtout que j'en ai pas les compétences, mais dans le texte que j'ai sous les yeux, il y a quelques phrases que j'aimerais juste lire parce que je me demande si les phrases-là ne sont pas au centre. De votre interrogation et de votre rapport à la langue et à la poésie, vous les connaissez, c'est bien sûr « À présent, nous lui comprons la langue sans que nos doigts tremblent, sans la moindre bavure. En lui coupant la langue, qu'est-ce que nous lui avons coupé d'autre? En lui coupant la langue, nous l'avons obligé à entériner son propre étouffement. On a transfiguré son langage en souvenir dans son cerveau et du coup, on l'a emmuré dans les ruines muettes de sa mémoire. » Ça continue un petit peu. « En lui coupant la langue, nous l'avons rendu prisonnier de lui-même. » Est-ce que ces phrases-là sont au centre du texte et de votre œuvre?
Ce sont des phrases qui sont évidemment au cœur du texte. Ni seulement au cœur de ce texte, mais au cœur aussi de mon écriture, de mes poèmes, de mes romans. Mais aussi le regard très particulier que j'ai à la langue. Que la langue soit très longue et qui dépasse d'un livre, ou alors la langue de langage est très courte et n'arrive pas à constituer une seule phrase. C'est pourquoi il me semble qu'une phrase structurée est la phrase du père. Et c'est pourquoi briser cette phrase-là, la fragmenter, et attribuer des fonctions nouvelles aux différentes fonctionnalités de la langue, et le devoir essentiel du travail artistique. C'est comme ramasser des pierres très différentes et venues de différents lieux, de les assembler, de les agglomérer pour en faire une œuvre artistique qui ne ressemblerait à rien d'autre.
Alors comment mettons en scène une œuvre qui ne ressemble à rien d'autre, Thierry Guédard? Puisque donc en enfer, on aura compris, c'est l'adaptation des 50 premières pages du texte de Zabaraïni.
D'abord, il n'y a pas d'adaptation.
Il y a des coupes franches pour ces 50 premières pages, mais il n'y a pas d'adaptation. Le verbe est tel que l'on peut lire. C'est important. C'est difficile de répondre à votre question, mais c'est simplement d'essayer de construire des matières troubles et dans un espace un peu de, étrange, de façon à ce que l'histoire même de Reza, l'histoire du démembrement d'une personne qu'on ne connaît pas, puisse s'entendre au plus profond, d'une certaine manière, de notre cerveau. C'est-à-dire ce que j'ai essayé de construire une chose qui fait que l'histoire de Reza devient un effroyable cauchemar. Mais ce n'est pas au sens on ne voit pas. Le cauchemar se déroule sur nous, puisqu'on est encore, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a dû faire ce jour-ci encore, démembrer l'acteur sur scène. On n'a pas coupé de langue, on ne coupe pas les langues de gens qui travaillent, qui sont là, heureusement. Mais on essaye par contre de travailler au plus près la matière même de l'œuvre dans un dispositif qui est un dispositif d'une certaine manière de l'enfermement, mais l'enfermement intime de chacun. Pour moi, c'est plus de l'ordre d'un travail d'ailleurs poétique que d'un travail strictement de metteur en scène. À la fin du texte que vous avez cité, beaucoup plus loin, il y a une phrase qui dit les bourreaux qui sont en train de démembrer, donc un homme qui finisse par couper la langue, au moment de l'acte, au moment où l'homme meurt, enfin je dis, dans un flot de sang, etc., le Ayaz dit qu'il prend la langue dans sa main, il fend le crâne de l'homme, et cette petite langue, il la met dans la cervelle. Il la rentre dans le crâne. En fait, d'une certaine manière, c'est ce que l'on essaye de faire avec les personnes qui sont en face de nous. Enfin, on n'est pas armé, on n'a pas des haches et des couteaux, des choses comme ça. Il y a vraiment cette dimension-là en permanence dans le travail. Mais je ne sais pas comment on a fait. On est au plus près de l'œuvre. Enfin, vraiment, c'est du verbe. Quoi. Ça se fait.
Est-ce dans le même esprit, puisque là, vous parliez du spectacle qui s'appelle En Enfer, qui est présenté à Châteaublanc, est-ce que c'est dans le même esprit que vous avez travaillé pour l'autre spectacle, l'autre texte de Reza Barahini, Casquès?
Non, du tout. les Casquès sont.
Alors, comment vous prononcez Casquès? J'ai cru dire que vous dire Casquès, mais j'aime bien Casquès parce que c'est un petit côté ludique et enfantin dans le Casquès.
C'est devenu les Casquès parce qu'on ne peut pas s'en sortir. En fait, moi je ne vais pas le faire parce que la version originale de Kershaw qui est un gerçon de l'Esterne.
Oui, c'est les Ressres.
C'est Ressres. Oui, mais c'est légèrement plus compliqué que ça parce qu'en fait, ce qu'est-ce qui vient Casquès, c'est la racine en fait. C'est une racine de la mystique. D'après Reza, très très ancienne, comme ça, qui aurait des millénaires, que l'on retrouve dans tout un tas de mots, à la fois de la langue arabe et de la langue persane, qui ne sont pas du tout les mêmes genres, bien sûr, etc. Donc en fait, on s'est amusé avec cette racine, parce que
la curiosité, le terme est un peu... Enfin, il y a une, c'est une vraie curiosité au sens le plus... qu'est-ce qui est très très curieux dans, le, dans la vie des mots et du monde. C'est que cette racine, ça voudrait dire à la fois couper, on retrouve ça dans les mots, et raconter. C'est-à-dire, on se moquait de moi encore, mais un récher, semble-t-il, est un conteur, en versant. Je ne sais plus, parce que je n'arrive plus, mais il y a tout un tas de mots que l'on trouve comme ça dans ces deux langues qui ont cette racine, et on pourrait vraiment dire que ça voudrait dire à la fois couper en morceaux et raconter des histoires. Donc en fait, l'histoire de ce titre est très simple, c'est qu'un jour à Toronto, donc visitait Reza, il nous raconte cette racine, l'histoire de cette racine linguistique, et puis on lui dit, mais comment ça s'écrit? Il l'écrit en persan, enfin il l'écrit en arabe, sur une nappe de papier, puis on essaye de le prononcer, puis ça devient qu'est-ce, et on éclate de rire, on lui dit, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce, voilà, c'est quoi, qu'est-ce. Et donc, on lui a expliqué l'espèce de blague en français, puis finalement, comme on ne savait pas comment intituler le travail qui maintenant s'appelle qu'est-ce, c'est une sorte de leçon de poétique, mais à l'époque on ne savait pas l'intituler, on a décidé que l'on ferait la réunion donc des casse-casse.
Point. Donc c'est vous qui avez trouvé le titre et dans ça, la bataille.
Mais c'est-à-dire que c'est une... Là, je le dis très simplement parce que c'est encore un tout petit peu plus compliqué, mais on explique ce que sont les casse-casse dans la proposition artistique. En fait, au niveau de la forme, ce n'est pas vraiment un spectacle. Pas vraiment une rencontre avec Reza non plus, avec un auteur. C'est une chose que nous, on assume maintenant, disons qu'on fait vraiment une leçon poétique d'une certaine manière. Leçon poétique au sens où la poétique, au sens noble du terme, comme on dit la politique au sens noble du terme, est une chose probablement fondamentale, parce que là, on a réellement une autre pensée du monde. Et c'est ce que l'on cherche avec Reza, tous les soirs, depuis quelques jours. C'est-à-dire à quel endroit l'on peut passer sa poétique du monde. Donc, quand je dis sa poétique du monde, il n'est pas plus possessif que ça lui-même avec sa pensée, toujours dans l'idée de la partager aussi. C'est une chose extrêmement importante, cette générosité de partager sans arrêt la pensée, si bien fait que. C'est comme ça que l'on s'y est retrouvé, on se retrouve ici avec Reza, parce que quand on discutait de construire les leçons de poétique, on n'avait jamais imaginé à l'origine qu'un jour on se retrouverait sur un plateau, dans un jardin, avec lui.
Il y a du mystère dans le titre de Casquette et Jasperès, mais il y a aussi du mystère et de la poésie dans le sous-titre, puisque le sous-titre est l'inimpossible poétique du démembrement. Quelle est cette idée de l'inimpossible?
Alors ça,
c'est pas vrai.
Qu'est-ce que l'inimpossible?
Nous devons dépasser toutes les catégorifications par rapport au pour qu'on puisse accéder à l'essence de l'art. Je vais donner une image. Je marchais une fois dans la rue. Un de mes amis, j'ai croisé un de mes amis il y a à peu près 10 ans. Je suis allé vers lui, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai embrassé. J'ai dit, mais où est-ce que tu étais passé pendant ces 30 dernières années? Et il a été très étonné. Et j'avais l'impression qu'il ne me reconnaissait pas du tout, qu'il ne me connaissait pas. Et 5 ou 6 secondes plus tard, La personne que vous cherchez arrive et est derrière moi. Et j'ai regardé, j'ai vu que l'ami que j'avais perdu de vue depuis quelques années, j'ai confondu le fils avec le père. Quand on regarde chaque œuvre, n'importe quelle œuvre littéraire sérieuse, on peut y trouver des traces où on peut se souvenir, ça peut nous faire penser à une œuvre plus ancienne. De la même manière qu'on remonte de plus en plus, le premier homme qui a vécu sur Terre, alors sans parler du paradis, ou quoi que ce soit de ce genre, a dû tuer son frère. Et ce fratricide a été raconté. En réalité, l'Ancien Testament commence avec tu et raconte. Pes et fres. Découpe en morceaux et raconte. C'est un travail très très difficile. Cependant, dans l'œuvre de Homère ou dans Édipe ou dans Hamlet, c'est la chose qui arrive, c'est la chose qui est racontée. Quand on regarde toutes ces œuvres, ceux qui ont été démembrés, ceux qui ont été démembrés, sont reconstitués à l'intérieur de ça. Et c'est pourquoi, en réalité, la recréation, la réinvention de leur mort ou de leur vie a été transformée en œuvre d'art. Voilà. Quelle est la méthode de cette aventure, de cette chose? La manière avec laquelle toutes ces œuvres ont été construites n'a jamais été racontée. Toute la littérature passée repose essentiellement sur il y a une chose qui est possible, une chose qui est impossible. C'est-à-dire que nous sommes sans arrêt dans le cadre d'une dialectique particulière. On est tellement habitué à cette classification que les plus belles œuvres culturelles sont transformées en quelque chose de cérébral. Mais le cœur de cette chose, comment on élabore ça, ne nous a jamais été compté. J'ai fragmenté la langue, je l'ai coupée en petits morceaux, parce que ce qui s'est passé dans la littérature mondiale a été la structuration de raconter cette fragmentation par une structure. Voilà, c'est-à-dire dans le domaine du possible et de l'impossible. Pour réussir à sortir de ce cercle fermé, il faut qu'on se tienne à l'extérieur, là, et que nous disions qu'il y a une autre manière de dire ces choses-là. C'est la manière que j'ai appelée l'inimpossible. Par exemple, dans Sherazade, il y a un personnage à qui on a coupé la langue. C'est le mari du personnage qui s'appelle
Sherazade.
Sa langue maternelle était l'azéri comme la langue maternelle به بزرگ رایی.
در نتیجه چون زبون بریده شده بهش میگن که داستان شهرزاد رو تعریف کن.
Comme sa langue a été coupée, on lui demande de raconter l'histoire de Sheherazade.
Il dit,
je ne peux raconter cette histoire que par une manière impossible. Et cette façon impossible de le faire, c'est qu'il s'endort debout et pendant 70 pages, dans une langue qui lui est étrangère, c'est-à-dire le persan, parce que sa langue maternelle est l'azéri, il raconte sa propre vie et la vie de sa femme. Leur vie dans les siècles, dans les temps différents. Dans le temps. Comme Sheherazade a enseigné au monde entier l'art d'écrire des contes ou des histoires, il raconte ainsi comment Sheherazade a voyagé dans le temps où il était sa femme, voilà, du temps où il était son épouse, au 19e siècle, et elle arrive à Saint-Pétersbourg. Et explique à Dostoevsky comment écrire les Nuits Blanches. Ce qu'on cherche à faire, c'est de retourner en arrière et voir qui était l'homme premier. C'est comme ça qu'on arrive au qu'est-ce 1. La mère a démembré.
یعنی ما سرکارمون بیشتر در زبان با زبان اینسست.
Notre rapport à la langue est un rapport à la langue de l'inceste.
ما سرکارمون با زبان‌های ممنوع میشه.
Nous avons affaire au langage interdit.
از نظر من دنیا به دو قسمت تقسیم میشه.
De mon point de vue, le monde est coupé en deux parties. Le monde avant Adam et le monde après Adam. Et la littérature s'efforce de se mettre dans la lignée de ça. Voilà, c'est pourquoi on affaire soit avec une langue très, très, très étirée ou alors une langue très fragmentée. Une de ces expériences, c'est l'expérience que je fais avec mon propre souffle quand je lis mes poèmes. Pour moi, un poème est quelque chose qui se lève de là, au-dessus du vent, et qui occupe toute la poitrine et la gorge, et qui est inédite qu'après.
شما این شعر رو به صورت زبان عادی
نمی‌خونید.
Il va vous sembler que
ce qui se passe, c'est que de l'autre côté de la langue. Alors que nous, ce qu'on a fait, c'est de vraiment placer le langage à l'endroit même où cette personne a démembré celle-là. Le bouleversement qu'il y a là, que ce démembrement, cette fragmentation, s'exerce sur elle-même de façon artistique. La matière du meurtre se transforme dans la matière de l'extase. Voilà, et c'est ça le domaine de l'impossible.
Il y a trois volets à qu'est-ce. Est-ce que cela correspond au même poème décliné de façon différente? Est-ce qu'il s'agit de trois meurtres différents comment s'articulent ces trois spectacles, ces trois propositions qu'il y avait là?
trois leçons de poétique, là, effectivement, ce sont des histoires de démembrement, en fait, de la pensée, des corps, des figures, etc. Donc le premier, qu'est-ce qu'un, donc, d'une certaine manière, on démembre la figure de la mère, de la femme, raconte la femme démembrée, c'est aussi la langue, aussi la langue et la mère, la pensée de Reza. Donc on raconte des histoires autour de ça. Quelques commentaires, mais surtout des histoires. Le troisième qu'est-ce, j'en saute un, je vais revenir après, c'est le démembrement de la figure du père, d'une certaine manière. Ça a beaucoup à voir avec le démembrement aussi de figure du Dieu, du pouvoir, etc. Et le deuxième qu'est-ce, en fait, que l'on est en train de travailler, qu'on a commencé à travailler hier soir, et a un peu changé au fil de nos histoires, etc. C'est une chose quand même qui est extrêmement centrée sur presque le démembrement des mots, le démembrement de la. Des moments du verbe, et il est un peu la chose qui lie finalement d'une certaine manière les deux autres. Et c'est une chose qui est assez complexe à expliquer parce que c'est pas du tout que ces leçons poétiques soient complexes, bien au contraire, mais on raconte beaucoup d'histoires d'une certaine manière. C'est-à-dire que la pensée de Reza, telle qu'il explique les choses-là, est plutôt on raconte plutôt des histoires qui sont pas des allégories, qui sont pas des métaphores, qui sont vraiment des histoires du monde, et quelquefois on les commente en quelque sorte pour s'amuser avec. Donc, c'est à la fois quelquefois très grave et aussi quelquefois très très drôle. C'est-à-dire que hier, dans ce qu'on appelle le qu'est-ce 2, donc on s'amuse, au sens où, à démembrer le nom de Dieu dans tout un tas de langues, ouraho, alphaïque, arabe, etc. Et c'est une. C'est une chose qui est. On s'amuse à ça. On s'amuse à cette pensée même de démembrer le nom de Dieu. Et en même temps, on observe les noms de Dieu qui sont restés pendant des millénaires dans des langues de cultures aussi anciennes que les cultures persanes, arabes, etc. On est toujours finalement en train de travailler sur une chose que l'on pourrait résumer très très simplement en disant que si l'on laisse parler l'archaïsme au sein de la modernité, on a donc une impossible poétique du démembrement. C'est la manière la plus simple de dire ces choses. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que je crois que la tour. J'aimerais juste savoir si le fait que ça se passe au jardin de Mons, donc en extérieur, et à 23h, qui est une heure un peu inhabituelle sur le festival, a une importance.
Ben, c'est-à-dire ce sont beaucoup des histoires de la nuit. Reza n'est pas chez Reazan, mais quelquefois, bon. On peut se parler
des têtes.
Il aurait pu être son père, ou on ne sait pas si c'est mon père, ou un truc comme ça. Mais ce sont réellement des histoires de la nuit. À un moment, on a craint que les caisses puissent durer des heures et des heures et des heures jusqu'à épuisement. En fait, dans les faits, il est certain que Reza n'aurait pas du tout été, lui, épuisé, mais nous, si. Puisqu'on arrête sans arrêt, on est sans arrêt entre le persan et le français, donc ce qui est une chose amusante aussi, évidemment.
Vous pourriez faire de chez Reza, c'est possible, impossible ou inimpossible?
Moi je ne suis pas chez Reza et Zirin n'est pas Shahriar.
Moi je
ne suis pas chez Reza. Nous pourrons être au mieux les enfants de chez Reza. Je pense que la seule chez Reza que je connais personnellement, c'est certainement ma mère. Une femme qui l'est créée. Qui, 3 à 4 ans avant sa mort, tous les gens venaient la voir avec un appareil enregistré. Pour que les histoires qui n'ont jamais été écrites pour les entendre de sa bouche. Donc moi, la femme qui m'a appris à lire, qui est Arzolée, qui est une personne qui a réellement existé, et l'autre personne, c'est ma mère, et aussi les choses que j'ai lues, les premières choses que une personne lit. Donc je suis dans un état d'esprit qui a à faire avec la confabulation. Voilà, c'est-à-dire l'assemblement de ces contes ensemble et puis les relier les unes les uns aux autres. C'est ce travail-là que quand j'ai rencontré Krim tous les deux. Voilà. C'est ça qu'on a fait avec Thierry. Moi je ne parle pas français. Thierry elle est très fâchée avec l'anglais. Donc, à chaque fois qu'on communique, c'est toujours par intermédiaire d'une tierce personne. Et cette chose elle-même est une politique de l'impossible.
Merci beaucoup. Donc, on enferme 9 au 15 à Château-Blanc, c'est à 18h, et un peu plus tard à 23h au Jardin de Mons, et qu'est-ce que ce sont pas tout à fait les mêmes dates, c'est du 10 au 19. Et on peut préciser, je ne sais pas si on peut le prouver encore, que le texte en fait est en voyage et publié chez Robert.
L'édition Robert.
L'édition Robert. Pas de questions? Non. Donc merci beaucoup et à demain.